Je n'ai que 15 minutes, mais je prends quand même 30 secondes pour dire toute ma reconnaissance au GSRL, pour exprimer ma reconnaissance pour tout ce que ce labo m'a apporté, les années où je l'ai dirigé, mais au-delà même évidemment de ces années, les doctorants, les post-docs, les collègues, les chercheurs que j'y ai côtoyés, ça a été une dynamique extraordinaire et j'espère pouvoir continuer, 20 ans déjà, belle jeunesse avec un beau futur. Alors, faire de la sociologie des religions et des laïcités, c'est toujours, et j'y insiste particulièrement d'un point de vue sociologique, chercher à contextualiser les pratiques et évolutions religieuses que l'on observe et que l'on analyse dans la synchronie des sociétés globales. Et donc, ne jamais perdre de vue la société globale dans laquelle on observe les évolutions des représentations, des pratiques religieuses, des relations entre monde religieux et diverses formes de sécularité. Ne pas oublier donc ce contexte synchronique et également la diachronie d'histoire politique et religieuse particulière. La distinction même entre le religieux et le séculier doit être contextualisée et historicisée, considérée comme une construction sociale qui évolue constamment et qui ne s'effectue pas de la même façon dans les diverses aires culturelles. Et en particulier, travaillant spécialement sur le terrain européen, j'ai pu constater combien il y a différentes trajectoires nationales de la modernité occidentale, différenciées d'un pays à l'autre. Ça commence par le mouvement même des Lumières, Aufklärung, Enlightenment, Lumières françaises ou francophones. Des différenciations, les processus de modernisation se sont effectués de façon différente et comme l'a très bien dit Philippe Portier, tous les pays européens ne sont pas entrés dans l'agnosticisme politique de la même manière. Et on constate la perdurance de dimensions religieuses des collectivités politiques, des États-nations en Europe. Et je suis frappé de voir la perdurance de ces dimensions religieuses. Une Europe où la religion n'est pas seulement appréhendée comme phénomène individuel, mais aussi comme phénomène social et culturel, y compris dans les instances mêmes de régulation de l'Union européenne. Et pour... juste sur ce chapitre européen, je voudrais dire aussi l'expérience de chercheurs français dans les rencontres internationales, la difficulté de traduction du terme de laïcité dans d'autres langues européennes et le fait qu'à l'échelle internationale, on parle plus de secular states et de différentes modalités de secular states dans les démocraties européennes, ce qui n'empêche pas de discuter aussi sur les différentes formes de laïcité et même, comme je l'avais fait dans une certaine époque, parler de laïcité européenne, entre guillemets, mais qui correspondait aux fondamentaux des secular states dans des démocraties pluralistes et avec une autonomie respective de l'État et des religions. Alors, ça a été évoqué par notre directeur. Je vais un peu ouvrir devant vous mon atelier théorique et faire une petite plongée assez contextuelle, puisque je parle de régime d'ultramodernité. Alors, la modernité, je rappelle que la modernité, en sciences sociales, c'est quatre processus. Un processus de rationalisation, un processus de différenciation fonctionnelle des activités et des institutions, un processus d'individualisation, un processus de pluralisation. Et qu'il y a des modernités, modernisation politique, économique, culturelle, philosophique, scientifico-technique, politique, bien entendu, sociale, et que ces différents processus ont leur propre temporalité et leur propre inscription dans des configurations culturelles et statonationales différenciées. Si je parle d'ultramodernité, c'est la thèse que je défends, c'est qu'on passe à un autre régime de la modernité. La modernité occidentale a été conquérante, elle a développé des logiques de certitude, elle a développé une dynamique, elle a été également colonisatrice. Et la modernité occidentale, ce n'est pas seulement l'émancipation à travers les différents vecteurs de modernisation, c'est aussi tellement cette modernité occidentale était sûre d'elle-même, c'est des projets coloniaux, la croyance que la civilisation européenne occidentale était une civilisation qui pouvait être importée, exportée et diffusée dans d'autres cultures. Donc ce régime le changement plus les certitudes de la modernité est aujourd'hui bousculé, interrogé, et je pense qu'on passe à un autre régime de la modernité occidentale, un régime qui réactive, radicalise ce qui est l'ADN, je dirais, de la modernité, son moteur, et j'emploie le terme, le mot de régime, ça convient bien à un moteur. L'ADN de la modernité, c'est sa capacité réflexive, sa capacité sans cesse renouvelée de questionner. C'est le questionnement, le doute, la critique, questionner les nouvelles évidences. Et c'est l'extension de ce pouvoir de questionnement, y compris sur les enchantements, les certitudes que la modernité sécularisatrice a engendrées. Et donc, si des logiques de certitude et des idéaux séculiers fortement mobilisateurs ont marqué la phase conquérante de la modernité occidentale, qui s'est déployée dans des cadres nationaux et des projets coloniaux, ce sont des logiques d'incertitude et une radicalisation de la sécularisation qui caractérisent notre âge ultramoderne, qui se déploie dans le contexte de la mondialisation et des défis écologiques. Dès lors, tant le séculier et le religieux ainsi que leur rapport se reconfigurent. Et la thèse que je défends et je vous livre, sans citer tous les auteurs, etc., c'est l'ultramodernité dans ces trois directions. Tout d'abord, l'ultramodernité comme une radicalisation de la sécularisation. Alors, radicalisation de la sécularisation, on a entendu tout à l'heure la référence à la désécularisation de Peter Berger. Je postule au contraire qu'il y a une radicalisation de la sécularisation et que c'est dans un régime d'hypersécularisation que se reconfigure aussi la situation des religions et des rapports aux religions. L'ultramodernité comme radicalisation de la sécularisation, la dimension de la mondialisation, la globalisation et les questionnements et défis écologiques. Voilà trois grandes directions qui balisent ce nouveau régime de la modernité. Alors l'ultramodernité comme radicalisation de la sécularisation, vous savez que l'origine historico-juridique de la sécularisation, c'est un transfert du religieux au séculier et un transfert en particulier de propriété, sécularisation des biens du clergé, transfert de propriété. Et j'ai parlé de sécularisation-transfert pour caractériser la sécularisation de la modernité en train de se faire, les processus de modernisation, sécularisation-transfert, où s'est affirmée la puissance du séculier et de logique séculière dans différents domaines, en particulier le domaine politique et le domaine scientifico-technique et dans différents domaines. Donc un transfert dans le politique des institutions religieuses à l'État et aux institutions séculières, avec une valorisation du rôle de l'État et la montée en puissance du rôle de l'État, avec des magistères séculiers, passage de magistères religieux à des magistères séculiers. Dans le domaine de la famille, on a pu observer l'institution du mariage civil et donc mariage civil, sécularisation du mariage, mais un mariage et modèles familiaux dont les origines ont été aussi influencées par le judaïsme et le christianisme, version sécularisée d'un mariage où il y a eu des origines religieuses sous la forme du mariage civil, mais ensuite bénédiction religieuse de mariage civil dans une continuité anthropologique entre la forme civile du mariage et la forme religieuse du mariage, et transfert également de sens et d'espérance à travers les progrès de la science et de la technique, et également transfert, par exemple, avec une montée en puissance des autorités séculières dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'école. Voilà quelques exemples rapidement nommés, j'en ai d'autres, de cette sécularisation transfert. Mais la thèse que je développe avec radicalisation de la modernité, c'est que c'est une extension de la sécularisation, et en particulier la sécularisation du politique, la sécularisation de la famille, la sécularisation de la technoscience, de l'école, et la sécularisation de la laïcité elle-même. Alors, sécularisation du politique, on est passé de la transcendance républicaine de l'État national à la gouvernance étatique, dans une société monde où les individus revendiquent l'ultra-démocratie, comme l'appelle Dominique Schnapper. Une relativisation des médiations institutionnelles de la démocratie parlementaire et une désacralisation de l'État, l'état pris entre l'insistance, la mondialisation et l'européanisation, et l'insistance sur les pôles locaux et régionaux de la vie démocratique, et donc une sécularisation même du politique et de l'État et de son importance symbolique. Sécularisation de la famille, j'ai évoqué tout à l'heure la sécularisation transfert d'une institution religieuse à une institution civile, avec l'éclatement des conjugalités et des modèles familiaux, c'est une sécularisation de l'institution civile du mariage et de la famille hétérosexuelle avec enfants également, autrement dit, une sécularisation beaucoup plus radicale et généralisée, touchant les différents modèles conjugaux et familiaux. On peut observer de même la sécularisation de la technoscience, la sécularisation de l'école. L'école a non seulement été laïcisée, c'est la fameuse école laïque, mais elle a été également sécularisée. Et l'école publique laïque est touchée également par la sécularisation, la remise en cause des magistères, des savoirs, des professeurs, à travers le développement d'Internet, de toutes sortes de vecteurs et canaux d'éducation qui questionnent même l'école laïque publique. Et sécularisation de la laïcité elle-même. La laïcité a pu être conçu comme un contre-système d'emprise par rapport aux religieux, mais à travers la juridicisation de la laïcité, à travers aussi les effets de l'européanisation, on constate de plus en plus que, et c'est à mon sens un signe de la victoire et de la maturation de la laïcité, que la laïcité devient une dimension de régulation du pluralisme religieux et convictionnel des populations des États européens et est moins considéré comme un contre-système d'emprise par rapport aux religieux, même si le schéma affrontement des magistères religieux et séculiers perdure, puisqu'il y a recouvrement de différents processus. Donc, dans le régime d'ultramodernité et cette radicalisation de la sécularisation, les héritages du passé sont désacralisés, mais non seulement les héritages du passé, mais les promesses de l'avenir. Et le temps de l'ultramodernité, c'est celui du présent et de l'espace-monde, alors que le temps de la modernité était un présent se projetant dans un avenir crédible et désirable et un espace national. La deuxième grande caractéristique de ce régime d'ultramodernité, c'est la mondialisation. La modernité occidentale, encore une fois, fut conquérante, elle fut nationale et colonisatrice. Mais à travers les processus de mondialisation, les phénomènes migratoires, les mondialisations économiques, culturelles, financières, médiatiques, etc., à travers tous ces phénomènes, c'est le développement d'un pluralisme beaucoup plus poussé et des interrelations entre différents systèmes culturels, différentes civilisations. Je récuse tout à fait le schéma clash des civilisations, mais accentuation des rencontres, des interactions entre différentes cultures et civilisations, y compris dans les pays des sociétés occidentales européennes. Et c'est donc non seulement un pluralisme de convictions métaphysiques sur l'homme, Dieu, le monde, etc., c'est un pluralisme axiologique. Comment concevoir une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Avec des traditions différentes, des conceptions différentes. Un pluralisme anthropologique qui touche à la façon de concevoir les rapports de filiation et les rapports de genre entre les sexes. Donc, un pluralisme beaucoup plus accentué que le simple pluralisme d'opinion sur l'existence de Dieu, de l'homme et de la façon dont ça pouvait être exprimé avant. Et le troisième grande dimension, et je vais très vite, car je vois que le temps tourne, les questionnements et les défis écologiques. Je pense que cette dimension fait partie également profondément du régime d'ultramodernité, car depuis Francis Bacon, savoir, selon la formule de Francis Bacon, savoir c'est pouvoir. Et donc il y avait un lien entre les découvertes scientifiques et leur application technique. Puisqu'on pouvait le faire, on le faisait, le possible était le souhaitable. Or, le possible devient de moins en moins le souhaitable et il y a de profonds bouleversements, interrogations. La modernité triomphante, ça a été science et technique et l'affirmation des droits individuels. Or, le questionnement écologique, environnemental, climatique, et c'est évidemment d'actualité, remet en cause la notion d'anthropocentrisme qui a été largement influencée par le christianisme et ensuite sous forme séculière, et tous les questionnements sur la place de l'homme parmi les êtres vivants dans son rapport à la nature et dans son rapport à l'animal. Et donc toutes les frontières de l'humain par rapport aux autres êtres vivants, animaux, végétaux, nature, est questionnée. Et revient l'ultramodernité, autant la modernité conquérante, c'était le progrès sans limite ou avec le moins de limites possible, revient une pensée des limites, une pensée des limites. Limites à assigner aux possibilités techniques, on peut le faire, mais faut-il le faire? Et limites assignées aux droits de l'individu, car la liberté de produire ou de consommer des uns peut désormais gravement altérer les conditions biosphériques d'existence de tous. La biosphère n'est pas simplement un bien commun au public, elle conditionne même plutôt l'existence de tous maintenant et à l'avenir. Elle transcende ainsi nos libertés. Donc, comment signifier de nouvelles limites aux pratiques de consommation et de mode de vie des individus? Et je lis que la crise écologique est interprétée comme crise spirituelle, à la fois du côté des religions, mais aussi du côté même des personnes engagées dans les problématiques écologiques. Alors tout cela, et je conclue, car je crois que mon temps est épuisé, tout cela, à mon sens, apporte une reconfiguration du religieux, la façon d'être religieux en ultramodernité et la façon d'être également séculier en ultramodernité. Alors, façon d'être religieux, c'est la reconfiguration des religieux comme sous-culture convictionnelle très diverse dans un environnement sociétal hyper sécularisé. Et c'est des réaménagements, des façons de se rapporter à une vérité religieuse, les consciences religieuses et convictionnelles elles-mêmes, intégrant de plus en plus la pluralité des options religieuses et philosophiques des uns et des autres, ce qui ne doit pas empêcher de dire qu'il y a aussi des crispations orthodoxes fondamentalistes qui sont réactivées dans une telle évolution, mais qui ne sont pas le train principal des évolutions socio-religieuses. Et donc une autre façon de se rapporter et de revendiquer un rapport à la vérité religieuse, et une autre façon de la vivre socialement, moins en appartenant à travers une socialisation verticale et institutionnelle, qu'en participant à, et plus sous forme réticulaire de réseaux et de recherche de liens d'affinité à travers des expériences spirituelles, convictionnelles diverses. Et dans ce cadre-là, face aux défis environnementaux, anthropologiques, de mobilisation citoyenne, j'observe une recomposition des relations entre Église, et religion et État, particulièrement sur le terrain européen, où quand je fais le tour des différents pays d'Europe, à la fois l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'ancien bloc communiste, je vois des séparations reconnaissance dans les relations entre État et religion, c'est-à-dire séparation, autonomie totale entre l'État séculier et les instances religieuses et convictionnelles, mais association, reconnaissance de la contribution des groupes religieux dans la vie sociétale, y compris pour renforcer la légitimation des droits de l'homme, la légitimation de l'humanisme séculier. Et je termine en disant, c'est ma phrase de conclusion, que ce serait une ironie de l'histoire que l'humanisme séculier qui a représenté une lutte, une victoire par rapport à certaines formulations religieuses, qu'aujourd'hui, des expressions religieuses peuvent venir au secours d'un humanisme séculier qui est lui-même questionné à travers la radicalisation de la modernité, notamment dans la façon de concevoir l'homme comme être vivant à côté des autres êtres vivants. Je vous remercie.